À 3 heures, Jim Barnett se présenta de nouveau, le carton vide à la main, et fila tout droit, avec le petit salut affable d'un monsieur que l'emploi de son temps satisfait pleinement. La leçon de flûte eut lieu. Gamme, exercice, fausse note. Et soudain, un silence qui se prolongea, inexplicable, et qui intrigua Béchou au-delà de toute expression.
« Que diable peut-il faire ?»
se demandait-il, imaginant tout un système de recherche effectué par Barnett et qui aboutissait à des trouvailles extraordinaires. Il monta les 3 étages et prêta l'oreille. Chez le professeur de flûte, aucun bruit. Mais chez sa voisine, mademoiselle Le Goffier, sténodactylographe, on entendait une voix d'homme.
« C'est sa voix !»
pensa Béchou, dont la curiosité n'avait plus de bornes. Et, incapable de se contenir, il sonna.
« Entrez ! La clé est sur la porte !»
Béchou entra. Mademoiselle Le Goffier, une fort jolie brune, était assise devant sa table, près de sa machine à écrire, et sténographiait sur des feuilles volantes les paroles de Barnett.
« Tu viens pour une perquisition ?»«
Ah, ne te gêne pas, mademoiselle n'a rien à cacher. »
Et moi non plus.
Je dicte mes mémoires. Tu permets ? Et tandis que Béchou regardait sous les meubles, il continua.
Ce jour-là, l'inspecteur Béchou me trouva chez la charmante mademoiselle Le Goffier, à qui la jeune flûtiste m'avait recommandé. Et il se mit en quête de ces 12 Africaines qui fuyaient toujours éperdument. Sous le canapé, il récolta 3 grains de poussière, sous l'armoire une talonnette. L'inspecteur Béchou ne néglige aucun détail. Quel métier !
Béchou se releva, montra le poing à Barnett et l'injuria. L'autre poursuivait sa dictée. Béchou s'en alla. Un peu plus tard, Barnett descendait avec son carton. Béchou, qui montait la garde, hésita. Mais il avait trop peur et il ouvrit le carton, qui contenait simplement de vieux papiers et des chiffons. La vie devint insupportable pour l'infortuné Béchou. La présence de Barnett, son persiflage et ses taquineries le jetaient dans une rage croissante. Chaque jour, Barnett revenait, et après chaque leçon de flûte ou chaque séance de sténodactylographie, exhibait son carton. Que faire ? Béchou ne doutait pas que ce fût une nouvelle farce et que Barnett se gaussât de lui. Mais tout de même, si par hasard, cette fois, Barnett emportait les titres, s'il se sauvait avec les 12 Africaines, s'il profitait de l'occasion pour déménager son butin. Alors, bon gré, mal gré, Béchou fouillait, vidait, glissait une main fébrile parmi les objets les plus hétéroclites. Torchons déchirés, loques, plumeaux sans plumes, balais cassés, cendres de cheminée, épluchures de carottes. Et Barnett se tenait les côtes de rire.
Elles y sont ? Elles y sont pas ? Trouvera ? Trouvera pas ?
Bougre de Béchou, m'auras-tu fait rigoler ?
Cela dura toute une semaine. Béchou perdait là, dans une lutte impuissante, tout son congé et, en outre, se rendait infiniment ridicule dans le quartier. Nicolas Gassir et lui, en effet, n'avaient pu s'opposer à ce que les locataires, tout en acceptant d'être palpés et fouillés, vacassent à leurs affaires. On jasait. La mésaventure de Gassir faisait du bruit. Ses clients affolés assiégeaient son bureau et réclamaient leur argent. De son côté, M. le député Touffémont, ancien ministre, dérangé dans ses habitudes et qui, 4 fois par jour, en sortant ou en rentrant, assistait à toute cette effervescence, sommait Nicolas Gassir de prévenir la police. La situation ne pouvait guère se prolonger. Un incident brusqua les choses. Une fin d'après-midi, Gassir et Béchou entendirent le bruit d'une violente dispute qui venait du 3e. trépignement, cris de femme. Cela semblait sérieux. Ils grimpèrent en hâte les trois étages. Sur le palier, Mademoiselle Aveline et Mademoiselle Le Goffier se battaient férocement, sans que les efforts de Barnett, qui se divertissait beaucoup d'ailleurs, réussissent à les maîtriser. Les chignons avaient sauté, les corsages étaient déchirés et les invectives s'entrechoquaient. On les sépara. La dactylographe eut une crise de nerfs, et Barnett dut la transporter chez elle, tandis que le professeur de flûte exhalait sa fureur.
« Je les ai surpris tous les deux, elle et lui !»
criait Mademoiselle Aveline.
« Barnett, qui m'avait fait la cour d'abord, l'embrassait. Un drôle de type que ce Barnett. Vous devriez lui demander, monsieur Béchou, ce qu'il manigance ici depuis 8 jours. Et pourquoi il passe son temps à nous interroger et à fureter partout? Tenez, je peux vous le dire, il sait qui a volé. C'est la concierge, oui, madame Alain. Alors, pourquoi m'a-t-il défendu de vous en souffler mot? Et puis pour les titres, il connaît la vérité. À preuve, ce qu'il m'a dit. Ils sont dans la maison sans y être. Et ils y sont pas tout en y étant. Méfiez-vous de lui, monsieur Béchou. »
Jim Barnett, qui en avait fini avec la dactylographe, empoigna Mademoiselle Aveline et la poussa énergiquement vers sa chambre.
« Allons, mon cher professeur, pas de potin et ne parlez pas de ce que vous ignorez. En dehors de votre flûte, vous bafouillez. »
Béchou n'attendit point qu'il fût de retour. Les révélations de Mademoiselle Aveline sur ce que pensait Jim Barnett avaient aussitôt éclairé l'affaire dans son esprit.
Oui, la coupable était Madame Alain. Comment n'y avait-on pas songé?
Emporté par une conviction rageuse, il dégringola l'escalier, suivi de Nicolas Gassir, et se précipita dans la loge.
« Mes Africaines, où sont-elles? C'est vous qui les avez volées !»
Nicolas Gassir arrivait à son tour.
« Mes titres, qu'en avez-vous fait, voleuse ?»
Tous deux secouaient la grosse femme, la tiraillaient chacun par un bras et la harcelaient de questions et d'insultes. Elle ne répondait pas. Elle semblait abasourdie. Ce fut pour Madame Alain une nuit affreuse à laquelle succédèrent 2 jours non moins pénibles. Pas une seconde, Béchou n'admit que Jim Barnett se fût trompé. D'ailleurs, à la lumière de cette accusation, les faits prenaient leur véritable sens. La concierge, qui devait avoir, en faisant le ménage, noté la présence insolite du paquet sur la table de nuit, et qui seule possédait la clé, avait fort bien pu, connaissant les habitudes régulières de M. Gassir, rentrer dans l'appartement, mettre la main sur les titres, se sauver et se réfugier dans sa loge, où Nicolas Gassir la retrouvait.
Béchou se découragea. « Ah oui, évidemment, c'est cette coquine qui a fait le coup. Mais au fond, le mystère demeure entier. Que le coupable soit la concierge ou n'importe qui, cela compte peu, tant qu'on ne saura pas ce que sont devenues mes 2 Africaines. J'admets qu'elle les ait rapportées dans la loge. Mais par quel prodige en sont-elles sorties entre 9h et l'heure de nos recherches dans la loge ?»
Ce mystère, la grosse femme, malgré les menaces, malgré les tortures morales qu'on lui fit subir, refusa d'en donner l'explication. Elle nia tout. Elle n'avait rien vu. Elle ne savait rien et, quoique sa culpabilité ne laissât aucun doute, elle demeura inflexible.
« Il faut en finir !»
dit un matin Gassir à Béchou.
« Vous avez vu que le député Touffémont a renversé le ministère hier soir. Les journalistes vont l'interviewer. Pourrons-nous les fouiller, eux ?»
Béchou avoua que la position était intenable.
« Dans 3 heures, je saurai tout. »
L'après-midi, il alla frapper à l'agence Barnett.
« Je t'attendais, Béchou.
Que veux-tu ? Ton aide. Je n'en sors pas. »
La réponse était loyale, et la démarche prenait toute sa valeur. Béchou faisait amende honorable. Jim Barnett s'empressa autour de lui, le saisit affectueusement par les épaules, lui serra la main et, avec une délicatesse charmante, lui épargna les humiliations de la défaite. Ce ne fut pas l'entrevue du vainqueur et du vaincu, mais la réconciliation de 2 camarades.
« En vérité, mon vieux Béchou, le petit malentendu qui nous séparait
me peinait infiniment. Deux copains comme nous, adversaires. Quelle tristesse! Je n'en dormais plus.
Béchou fronça les sourcils. En sa conscience de policier, il se reprochait amèrement ses cordiales relations avec Barnett et s'indignait que le destin eût fait de lui le collaborateur et l'obligé de cet homme qu'il considérait comme un filou. Mais, hélas, il y a des circonstances où les plus honnêtes fléchissent, et la perte de 12 africaines est au nombre de celles-là. Étouffant ses scrupules, il murmura « C'est bien la concierge, n'est-ce pas ?»«
C'est elle. Pour cette raison, entre beaucoup d'autres, que ce ne peut être qu'elle. »
« Mais comment cette femme, si respectable jusque-là, a-t-elle pu commettre un tel acte ?»«
Si tu avais eu la précaution élémentaire de prendre des renseignements sur elle, tu saurais que la malheureuse est affligée d'un fils qui est la pire des fripouilles et qui lui soutire tout son argent. C'est pour lui qu'elle a succombé à la tentation. »«
Elle a réussi à lui refiler mes africaines ?»«
Oh, ça non, non. Je ne l'aurais pas permis. Tes 12 africaines, c'est sacré.
Où sont-elles, alors ?
Dans ta poche.
Ne plaisante pas, Barnett.
Je ne plaisante pas, Béchou, quand il s'agit de choses aussi graves.
Vérifie.
Béchou glissa vers la poche désignée une main timide, palpa, et tira une large enveloppe ornée de cette adresse. À mon ami Béchou. Il la décacheta, aperçut ses africaines, en compta 12, pâlit, vacilla sur ses jambes et renifla un flacon de sel que Barnett lui colla sous le nez.
« Respire, Béchou, et ne t'évanouis pas !»
Béchou ne s'évanouit pas, mais il essuya quelques larmes furtives.
La joie, l'émotion lui étreignaient la gorge.
Certes, il ne doutait point que Barnett lui eût fourré l'enveloppe dans sa poche dès son entrée et durant leurs effusions.
Mais les 12 africaines n'en étaient pas moins là, entre ses mains frémissantes. Et Barnett ne lui apparaissait plus du tout comme un filou.